Vendredi 24 février, sur les ondes de CKRL 89.1, vous écoutez La vie en BD. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La vie en BD, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. C'est votre émission consacrée à la bande dessinée, avec également des regards sur l'animation. Et je le mentionne tout particulièrement cette semaine, puisqu'en deuxième partie d'émission, on aura le plaisir de discuter avec une ancienne BDiste qui maintenant se consacre à l'animation et aux arts visuels, Julie Doucet, qui s'était illustrée notamment dans les années 90 avec des bandes dessinées éditées chez Drawn and Quarterly, et qui maintenant est exposée du côté de l'œil de poisson, en fait, à l'entrée vidéo, une série de courts films d'animation qui sont proposés là. Alors, on va parler des films, on va parler également de sa carrière en art visuel, peut-être un petit clin d'œil également à son passage du côté de la bande dessinée. Donc ça, ce sera en deuxième moitié, Julie Doucet. Également, en première moitié, on aura l'occasion de discuter avec le BDiste Luc Thibault, qui a illustré et qui a réalisé, créé l'automne dernier le volume Section des homicides, tome 1, Fureur meurtrière du côté des 400 coups. Alors, de la bande dessinée à saveur polar, à saveur policière, il s'en fait pas beaucoup au Québec. Alors, on va voir un peu de quelle manière il a construit ça et il a été intéressé également par ce genre. Ce sera tout à l'heure. Également, de passage, Stéphane Gravel pour ses commentaires BD. On va parler notamment avec lui de Mouse et Metamouse et aussi de Hitler chez Cornelius. Alors, ben, ça, ce sera tout à l'heure, en fait, dans quelques instants. Et également, on fera quelques petits clins d'œil, que ce soit à d'autres bandes dessinées et aussi à une activité BD qui se prépare, première qui aura lieu d'ailleurs lundi qui vient, le 27 février. Les micros ouverts de la BD auxquels je collabore à l'organisation avec d'autres également. Donc, ce sera ce lundi chez Philactère. On vous donne un peu plus de détails en cours d'émission. Alors voilà, c'est le menu pour aujourd'hui. Et sinon, puisqu'on parle d'activité, petite mention au passage aussi, on a eu droit un peu plus tôt cette semaine à un avant-goût de la programmation du 25e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Alors, on nous dit du côté de l'organisation que les préparatifs vont bon train pour cette 25e édition. C'est quand même un jalon important pour cet événement-là. Alors, on avait des belles attentes pour la programmation et semble-t-il que le festival est bien parti pour y répondre. On n'a pas la liste finale, évidemment, des invités, mais il y a déjà quelques noms qui ont été annoncés. En ce qui concerne les auteurs québécois, on parle de Michel Rabagliati, de Delaf et Dubuc, de Jacques Lamontagne, qui a écrit notamment la série Druide, Réal Godbout et Pierre Fournier, qui vont être de passage aussi avec cette réédition qui est prévue chez La Pastèque de la série Red Ketchup. Il y aura également des auteurs étrangers. On annonce d'ores et déjà Patrick Sobral, Johan et Juanjo Guarnido. Et aussi une première, je crois, dans l'histoire du festival, enfin un visiteur qui réalise la bande dessinée anglophone, et pas le moindre, il s'agit de Charlie Adler, qui est l'un des créateurs, en fait, le dessinateur de la série Walking Dead, série qui a quand même largement fait parler d'elle, évidemment avec notamment cette adaptation télé qui a été offerte par Frank Darabont au niveau de la bande dessinée elle-même. C'est aussi un franc succès, alors vraiment des beaux invités de ce côté. Et également, on annonce aussi une première soirée, une soirée à saveur festive pour célébrer le 25e. Ça, ce sera le 13 avril, vendredi 13, avec la formation Qualité Motel. Et ça, ça en fait un projet parallèle des membres de Mister Valère. Alors, ça risque d'être extrêmement entraînant. Et un peu plus tôt dans cette soirée-là, il y aura le dévoilement des prix BDIS Causa. Alors voilà, ça c'est pour le Festival de la bande dessinée de Québec, si vous avez envie de voir un peu plus avant ce détail, et aussi peut-être de vous mettre à l'œil l'affiche de cet événement qui a été réalisé par le bédéiste Pascal Girard, et bien allez faire un tour sur le blog de l'émission, lavieenbd.wordpress.com. On a mis le communiqué de presse là, on a mis également la petite image de l'affiche qui a commencé à circuler sur l'intranet et sur l'internet, alors on vous invite à aller y faire un petit tour. Alors, avant de se lancer plus avant dans nos discussions, un petit intermède musical. Et cette semaine, la sélection musicale, c'est une suggestion de la directrice de la programmation ici à CKRL, Tania Beaumont, qui m'a dit, mais jette un petit coup d'oreille à la formation de Québec X-Ray Zebras. Ils viennent tout juste de sortir un album. C'est groove, c'est entraînant et en même temps, ben, on met de belles façons la table pour l'émission 100% Dynamite qui nous suit. Alors, on en écoute quelques extraits. Donc, aujourd'hui, on en écoute un premier à l'instant, New Sound. La formation X-Ray Zebras ici à CKRL. Et maintenant, nous, on a le plaisir d'aller rejoindre au bout du fil Stéphane Gravel. Bonjour.
Allô, allô.
Ça va bien?
Pas pire.
Ça a l'air qu'il y a une grosse tempête qui se prépare. Alors là, je me questionne.
Je la vois pas.
Moi non plus. Mais bon, enfin, on va se préparer des lectures. D'un coup qu'on est submergé de neige ce soir, on ne peut plus sortir. Ben, faut avoir de quoi lire.
Absolument.
Et Stéphane en fait plusieurs beaux titres qui sont sortis récemment, sur lesquels on va revenir dans les prochaines secondes. Et notamment, on se lance un ouvrage qui était quand même assez attendu autour de Mouse d'Art Spiegelman, c'est Metamouse.
Extraordinaire. C'est juste extraordinaire. C'est pas une BD, mais ça contient la BD. C'est un livre avec, comme je m'amuse à dire souvent, avec des vrais mots, avec des vrais mots en vraie typographie. Mais c'est que Mars est une œuvre majeure en bande dessinée. Là, je pense que on en a parlé et on en parle encore. C'est une BD qui fête ses c'est combien d'années? 30 ans, quasiment?
Quasiment. Et puis c'est une des premières BD à avoir eu des prix littéraires, à proprement parler aussi. Là.
Mais, c'est une BD qui a gagné le prix prix Pulitzer en 92. Donc, tu vois, ça a 20 ans. Mars a 20 ans. Et puis, c'est une BD qui avait un sujet qui était quand même pas mal sérieux. Là. Mm. On parle des camps de concentration. Et c'est aussi la relation père-fils, c'est-à-dire entre l'auteur et son père. Hans Spiegelman raconte vraiment l'histoire de son père qui a été dans les camps de concentration. Et je reviens sur Mars, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de revenir pour parler de Metamorphose parce que je pense que les deux sont indissociables. Mm-hmm. Donc, je continue. Mars est raconté avec des petits bonhommes. C'est-à-dire avec les Allemands sont des chats, les Juifs sont des souris, les Polonais sont des cochons. C'est une histoire sérieuse et tragique qui est racontée il y a 20 ans par l'intermédiaire d'une bande dessinée. La bande dessinée est encore perçue pas mal à l'époque, plus comme paralittérature que comme littérature. Donc, Spiegelman est un auteur de bande dessinée, mais est un auteur de bande dessinée underground. C'est pas quelqu'un qui fait qui fait de la BD grand public. Mm-hmm. Donc, tout ça fait que Mars est arrivé sur le marché comme étant un mystérieux livre avec des mystérieux choix. Mm-hmm. Et là, Spiegelman revient sur Mars, sur ce classique-là, et il répond aux questions. Pourquoi la BD? Pourquoi cette histoire-là?
Enfin, il décompose littéralement son travail, il réfléchit, il justifie.
Exactement, exactement. Et je sais pas si tu as eu la chance de tenir ce livre-là dans tes mains, là, mais c'est un livre qui est un rempli d'illustrations, c'est sûr, parce que il y a des croquis de Spiegelman. C'est plein de photos aussi de sa famille, de lui, des reproductions de documents, de lettres de son père. Donc, ça prend une dimension qui est extrêmement intéressante. Et puis, en plus, il y a un DVD avec ça qui contient l'intégrale des pages de Mars, l'intégrale des pages, les sketchs, c'est-à-dire les croquis aussi de Spiegelman. Donc, c'est riche en matériel, c'est extraordinaire et ça donne juste le goût de relire Mars, c'est sûr, parce qu'il y a des références aux pages, pourquoi elle a dessiné ça comme ça, pourquoi elle a fait ça comme ça.
En fait, ça vaut la peine d'avoir les deux en parallèle même, là, d'avoir Mars ouvert pas très loin de Métamars.
Il faut avoir Mars ouvert pas loin. Il faut. C'est beaucoup plus plaisant comme ça, parce que c'est un peu comme Mars, je vais faire une comparaison complètement idiote, mais c'est un peu comme Apocalypse Now là, de Coppola. Là. C'est une œuvre majeure qui a demandé une tranche de vie extraordinaire à son auteur, et on s'en rend compte en lisant Métamars, c'est-à-dire qu'il a vraiment été obligé d'entrer dans son monde, entrer dans sa famille, les questions qu'il a posées à son père, ce qu'il a découvert, ça y a pas fait plaisir, là, c'est sûr, là, c'est une histoire tragique. Puis, c'est un peu comme Coppola avec son Apocalypse Now, puis un peu aussi comme le documentaire Art of Darkness de sa femme qui a été fait sur Apocalypse Now. Je pense que le documentaire est encore plus grandiose que le film, et le film pourtant est grandiose parce qu'on voit l'ampleur du travail derrière l'œuvre. Et c'est sûr qu'une œuvre en soi la qualité de l'œuvre n'est pas nécessairement par rapport au travail qui est fait, mais quand une œuvre est une œuvre comme ça, et qu'on voit toute la dimension en plus qu'il y a derrière tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Mars, c'est la petite pointe de l'iceberg, et Métamars nous fait découvrir tout ce qui était en dessous de l'eau, là. Et ça, j'ai du plaisir à feuilleter et embarquer dans ce livre-là. Je vous dis pas, c'est vraiment... Je me sens enthousiaste, là, mais c'est bon. C'est vraiment bon. Puis, mais quel boulot! Les auteurs de bandes dessinées, on peut les percevoir comme des dessinateurs qui font des petits comics, là. Mais quand on arrive dans une œuvre comme Mars, on rentre vraiment dans quelque chose qui est solide et qui prend aux tripes. Hein. Mm. Puis là, ce qui est intéressant avec la sortie de Métamars, c'est qu'on ressort l'intégrale de Mars. Ils ont refait les éditions Flammarion, ont refait un tirage de Mars. Et il est beaucoup moins cher que le tirage précédent. C'est-à-dire, l'intégrale de Mars était un livre qu'on pouvait avoir, je pense, à 64 ou 65 $. Et si je me trompe pas, celui-ci là, qui vient de sortir est autour de 49. Donc, tu sais, il y a quand même un bon 15 $ de moins, probablement à cause de et qu'on a fait des plus gros tirages et on en fait profiter le lecteur. Et puis c'est sûr qu'on s'attend c'est sûr qu'au niveau business, ben on s'attend à ce que tous ceux qui aient le goût de découvrir Mars, qui vont acheter Métamars et Mars en même temps, ben là ils achètent quand même
les deux.
Et puis Spiegelman était président du festival de la bande dessinée d'Angoulême, donc
il y a des expositions en Europe, je pense qu'il y a la Paris qui vient d'ouvrir.
On l'entend plus, on le connaît mieux, en tout cas son nom sonne plus quelque chose, et c'est tout à fait le style de BD qui s'adresse à tout le monde aussi. C'est-à-dire que c'est pas une bande dessinée que pour les amateurs de bande dessinée. Moi, j'ai toujours trouvé que Mars était une entrée en matière extraordinaire pour quelqu'un qui n'avait aucun intérêt, qui n'avait jamais lu de la bande dessinée, parce que c'est une BD, quoi qu'elle fait par un auteur qui, comme je disais tantôt, qui est underground. C'est une BD qui est extrêmement conventionnelle, même si c'est des chats et des souris. c'est une BD qui reste conventionnelle, la façon dont elle est racontée. Et c'est un récit qui est tellement fort et tellement bien raconté par Spiegelman que tout le monde va embarquer dans cette histoire-là. Là.
Alors, si on n'a pas lu Mars, ben courez à la librairie ou à la bibliothèque pour découvrir cette œuvre. Métamars, si on a aimé Mars, ben effectivement, ça vaut la peine d'être découvert. Alors, ce Cédart Spiegelman, c'est chez Flammarion. Et on reste un peu dans les thématiques, à tout le monde, au niveau du titre, avec la deuxième BD que tu commandes, c'est que cette semaine, Stéphane, ça s'appelle Hitler.
Ah oui, c'était un peu mon... C'est un peu en retard, mais c'est un petit peu mes choix de Saint-Valentin. Je crois que ça faisait un beau couple. Bon, ne rions pas du sujet, parce non. que c'est quand même pas un sujet qui est rose. Mais Hitler aux éditions Cornelius de Shigeru Mizuki, une autre découverte pour moi. Cette BD-là est vieille, c'est-à-dire que la version originale japonaise date de 1972. Et les éditions Cornelius viennent d'éditer en français cette histoire-là, donc...
Plus de 35 ans. Là.
C'est incroyable, ouais. C'est du... Puis l'autre truc que je trouve fascinant, c'est de voir Hitler en manga aussi.
Oui, effectivement, parce que le style manga, on a des idées préconçues un peu stéréotypées, les grands yeux, etc. Est-ce que ça passe bien? Est-ce que c'est le type de manga qu'on pense quand on pense manga?
Écoute, c'est le style de manga qu'on pense quand on pense manga, mais pas le manga... c'est pas le manga... j'allais dire le manga, entre guillemets, fast-food, là, ou le manga qui sort rapidement. On est plus près de ce qu'on peut voir chez Casterman dans la collection Écriture, entre autres, là, où on a un manga qui est un petit peu plus sage, les yeux sont un peu moins grands et il y a moins de tourbillons autour de la tête. Là. Mais ça reste une BD qui se lit dans le sens non conventionnel de la lecture chez nous, c'est-à-dire à l'envers, avec des caractéristiques, oui, qui sont manga. Il y a quelque chose dans l'utilisation du gros plan, il y a quelque chose dans la représentation de l'action par les lignes noires aussi, là, la représentation du mouvement, des bruits, les personnages dans leur, entre guillemets, dans leur jeu sont très manga, mais on oublie vite ça, parce que c'est une BD qui est faite avec... c'est une bande dessinée qui est faite avec talent, avec force et avec beaucoup d'inspiration, je trouve. Bon, l'histoire, c'est Hitler, mais l'auteur a pris le choix de raconter l'histoire de Hitler par Hitler, c'est-à-dire c'est pas nécessairement lui le narrateur, mais on va jouer alentour...
C'est sa perspective à lui, dans le fond.
On va jouer, oui, c'est ça, on va jouer l'histoire autour du personnage de Hitler. Donc, c'est pas mince, là. C'est-à-dire qu'on va pas montrer nécessairement les trucs énormes et tragiques qui se sont passés dans les camps de concentration. On est plus, entre guillemets, on est plus près du bureau, on est plus près de l'administration, on est plus près de Hitler. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça reste fait avec un regard critique qui est à la fois critique et à la fois humoristique. C'est difficile à saisir, mais le personnage de Hitler est tellement, entre guillemets, con.
Donc c'est un jeu d'équilibre qui ont réussi, c'est un pari qui avait été réussi en 72 là, par cet auteur-là.
Absolument, puis Hitler, là, c'est un monstre, là. Il aurait pu être dessiné comme un T-Rex dans un manga, là, je crois, mais l'auteur débute son histoire avec un Hitler qui est rejeté de l'école des arts. Donc, déjà, on embarque un peu dans cet univers-là là, de l'artiste l'artiste frustré. Mais il va pas montrer Hitler comme quelqu'un qui a la rage et la colère et le belliqueux qui veut conquérir le monde comme le docteur Falamour, exemple. Il va vraiment montrer Hitler comme avant tout une personne qui, au cours de sa vie, prend des chemins, des décisions qui ne paraissent pas si graves, mais qui, en bout de ligne, mis bout à bout dans l'ensemble de ses décisions et dans l'ensemble de ses choix, vont tracer un chemin qui est d'extrême droite et extrêmement atroce. Donc, c'est comme si, à quelque part, ça peut nous aider à comprendre quand le peuple allemand a dit c'est une époque, on a suivi un homme qui avait un talent oratoire, mais on ne savait pas ce qu'on s'en allait et on ne voyait pas où tout ça, c'était pas planifié où tout ça allait nous amener. C'est un peu comme ça qu'il raconte ça. Donc, il y a quelque chose d'encore plus tragique, je trouve, que si c'était un méchant qui arrive avec son désir de briser la planète pour pouvoir l'avoir à lui seul. C'est pas ça. C'est comme si c'était toujours dans des moments un peu maniaco-dépressif où on va faire ça, nous, d'abord. Puis là, ça s'en va et ça prend un chemin, qui lui prend un chemin, les autres embarquent et soudainement, c'est comme un immense train qui est embarqué sur des rails sur lesquels on ne pensait pas qu'elle allait embarquer et il fonce dans tout.
Alors, c'est deux BD à découvrir pour des raisons bien différentes, mais peut-être à lire en perspective. Donc, Mars d'un côté, Hitler de l'autre. Hitler, je le rappelle, c'est aux éditions Cornelius. Stéphane, merci beaucoup.
Ouais, ça me fait plaisir. On avait du Spirou, mais là, le Spirou, c'est ben trop ça.
Mais à côté de ces deux-là, là, on en reparlera dans la prochaine chronique.
OK, mais non, c'est vraiment... Le Hitler, c'est vraiment une BD à découvrir pour lire autrement la triste Deuxième Guerre mondiale.
Et Stéphane Gravel, merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir.
Salut bien.
Salut, Ramon.
One Flew Over the Unicorn's Nest de la formation X-Ray Zebras. Et on reste dans les thématiques assez sombres, au bout du compte, et les mauvais côtés, peut-être, de la nature humaine. Une série qui a été lancée, enfin, premier tome, qui a été lancée l'automne dernier. Donc, on est encore en mode rattrapage en ce début 2012. La BD policière, on en voit quand même assez peu souvent, surtout de la BD policière faite au Québec. Alors, il s'agit de la BD section des homicides, tome 1, Fureur meurtrière. Et pour nous en parler, on est en compagnie de son auteur, Luc Thibault. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je disais, BD policière, on n'en voit pas très souvent. Qu'est-ce qui, de votre côté, vous a orienté vers ce type d'univers-là, ce type d'ambiance-là?
J'ai toujours aimé tout ce qui était judiciaire, même mon tout jeune âge. À 10 ans, j'ai fait ma première BD. Je dessinais à peine, puis ça s'appelait John le détective. Donc, j'ai toujours eu un attachement pour ce côté-là, du côté judiciaire. Et même, il y a beaucoup de gens qui me disent comment ça se fait que tu n'es pas allé policier, mais... C'est pas l'idée. Non, j'ai toujours aimé ça.
Oui, en fait, j'ai l'impression de ce que je lisais à gauche, à droite, que même dans le passé, dans des magazines comme Bambou, comme Enfin Bref et autres, vous avez déjà flirté un peu avec le genre à travers la BD.
Oui, bien, ça a toujours été soit judiciaire ou aventure. J'avais un personnage qui s'appelait Savannah il y a quelques années, que justement a été publié en Bambou à ce moment-là. Mais c'est ça, mais le côté judiciaire l'a pris vraiment le dessus. Surtout avec cet album-là, il y en aura, j'espère bien, parce que c'est le tome 1, il y en aura sûrement d'autres. Puis je travaille justement sur, c'est pas une suite, mais une autre aventure des deux policiers principaux qui font partie du SPI. C'est ça, oui.
En fait ça m'a fait penser un peu à la structure du premier tome, un peu comme dans les séries policières télévisuelles. Dans le fond, on a une enquête qui est contenue à l'intérieur du tome avec quelques éléments d'intrigue qui vont porter d'un tome à l'autre, mais c'est vraiment axé justement sur une enquête policière.
Oui, bien justement, puis quand je vois des séries, c'est curieux parce que moi, l'histoire elle-même, elle a été écrite au début des années 2000. Puis je vois des séries policières actuelles, puis on dirait qu'on se rejoint là-dedans, la façon de monter l'intrigue, puis tout ça. Je vois la façon de s'y traiter, mais comme par exemple aussi, si on recule, quand j'ai commencé à dessiner, mes favoris étaient P. Jacob, par exemple. Il y a eu Herman par après, il y avait Tibet qui faisait Ricochet. C'est pour ça que j'ai toujours aimé tout ce qui avait rapport au côté judiciaire. Parce que dès mon tout jeune âge, c'est ce que je lisais aussi. J'aimais bien Tintin, fait par Hergé, mais beaucoup de jeunes de mon âge lisaient Astérix, mais moi je lisais Herman, puis je lisais puis Jacob, puis ça, avec Dick et Mortimer.
Et bien le faire, en fait, j'ai l'impression, bien amener ce genre-là, le polar, le policier, en BD, c'est quand même un bon défi. C'est quelque chose qui se fait, mais qui se fait pas toujours facilement non plus, là.
Non, ben ça prend de la documentation énormément. Si vous avez lu l'album, il y a des choses où je marque authentique. Je me suis vraiment documenté à ce niveau-là quand j'ai besoin d'avoir quelque chose qui va me servir dans l'enquête. Mais c'est vrai, mais quand t'aimes ça aussi, hein, c'est comme faire de la musique. Moi, je fais de la musique, je fais pas vraiment de pompon, je fais du cover, comme on appelle au niveau de la musique. Mais c'est pareil, quand t'aimes ça, là, les heures puis le temps qu'on met là-dessus, on le voit pas vraiment.
Et au niveau scénarisation, qu'est-ce qui est venu un peu au départ? Est-ce que c'était l'idée justement de l'enquête elle-même ou c'était les policiers que vous vouliez placer un peu dans le contexte de cette enquête-là? Donc, comment ça s'est construit un peu le récit de Section des homicides?
Bien, c'est que j'avais quand même plusieurs scénarios un petit peu que je travaillais. Puis à un moment donné, des fois, c'est des embryons. Mais j'avais décidé que ça s'appellerait Section des homicides. Parce que je voulais traiter ce côté-là. C'était pas le côté des drogues, c'était vraiment ce côté-là judiciaire que je voulais traiter. J'imaginais les personnages principaux, mais il y en a d'autres. Si vous regardez d'autres, dans l'album aussi, il y en a certains qui apparaissent puis qui vont apparaître dans les albums prochains. Ça se fait un petit peu... c'est certain que je voulais faire quelque chose de judiciaire, mais je voulais délaisser le côté aventure que j'avais fait auparavant. Mais ça a commencé, puis j'ai une autre histoire que je suis en train de terminer la couleur, qui est... mais pas suffisamment long pour faire un album, qui s'appelle Piège mortel au château. Là, je suis en train de faire la couleur. Le dessin est tout fait, mais c'est une aventure qui se met sur 21 planches. Ça prend plus que ça pour faire un album. Mais c'est ça. C'est un petit peu difficile à vraiment expliquer. On fait notre scénario, puis après ça, on imagine nos personnages graduellement. Puis c'est certain que je voulais en avoir deux principaux. Mm-hmm. Mais ça se résume à ça.
Et quand on bâtit une enquête aussi, évidemment, il y a les pistes, les vraies pistes, les fausses pistes qu'on propose aussi au lecteur. Ouais. Donc, faut réussir à bien organiser ça pour bien rythmer ce récit-là, bien lancer faussement et vraiment, dans le fond, le lecteur.
Bien, c'est des amener sur des fausses pistes pour leur faire croire que c'est un des personnages, puis finalement, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée principale que beaucoup d'auteurs ont exploité en livre, que ce soit Agatha Christie ou, j'ai pas de nom, d'autres noms qui me viennent en tête, là, mais c'est le but, hein, dans tout récit policier. Si on écoute les séries, beaucoup qui sont à la télé, de ce temps-là, avec Série Plus, par exemple, il y a des bonnes et des moins bonnes dans tout ça, mais l'idée, c'est de captiver le lecteur ou la personne qui regarde une émission.
Et j'imagine de votre côté, est-ce que ça nécessite de relire le scénario pour voir, est-ce que c'est crédible, est-ce que mon coupable est crédible, est-ce que j'ai suffisamment de fausses pistes aussi, mais qu'il y a une cohérence dans le fond dans tout ça.
Oui, relire et abréger, ainsi de suite, là, c'est incroyable. Avant qu'on arrive à un produit final, même quand c'est terminé, que le dessin est fait, le texte est rentré, on trouve le moyen encore de relire nos textes et de dire les raccords sont bien faits. Là, on a toujours un doute comme n'importe quel auteur. Quand on a terminé, on se dit bon. Mais jusqu'à maintenant, j'ai quand même eu des bons commentaires. Mais c'est un fait. C'est pas facile, mais en même temps, c'est tellement quelque chose. À mon goût à moi, c'est quelque chose qui est plaisant. Mais c'est ça, c'est de captiver. Je sais pas trop comment élaborer plus.
Et en même temps, j'ai l'impression, dans le premier tome de section des homicides, que vous avez placé aussi, Luc Thibault, des archétypes. En fait, il y a un peu des incontournables dans une enquête policière. Il y a une attaque dans le noir, des appels anonymes.
C'était ça l'idée. On retrouve toujours les éléments clés dans à peu près tout ce qui... aussi loin qu'on puisse reculer de Sherlock Holmes que Conan Doyle écrivait. On fait des choses qui sont personnelles, mais à quelque part, on n'invente rien.
En fait, il y a un côté peut-être hommage au genre, entre guillemets. Dans le fond, on reproduit, on l'amène, on le développe. Série policière faite au Québec. Et en plus, vous placez ça dans le Nord, dans un petit village nordique. J'imagine que le côté huis clos servait bien côté scénario.
Bien, c'est parce que ça me permettait de faire à peu près n'importe quoi. C'est un village fictif qui s'appelle Bekawina, qui n'existe pas. Il y a des gens qui se demandaient si ça existait, mais non, ça n'existe pas. Mais ça me permettait à ce moment-là, j'avais pas de contraintes. J'ai pas fait d'exagération non plus. Ça pourrait se passer dans un village qui existe vraiment aussi. Mon idée, c'était de faire un village qui était fictif. Mm-hmm. Pour avoir plus de. Et c'est certain que j'aurais pu. Mon scénario était plus long. J'aurais pu faire quasiment deux albums avec le même scénario. Mais à un moment donné, faut pas, comme on dit souvent, faut pas étirer la sauce non plus trop longtemps.
Là. Oui, puis en même temps, le village versus, par exemple, le placer dans une grande ville, Montréal, Québec ou autre, de l'amener dans un village, il y a un bassin plus restreint aussi de coupables potentiels et le reste.
Exact. Oui. J'aurais fait ça à Québec ou à Montréal. Puis il y a des choses, des fois, qu'on peut pas parce qu'on se dit, ben là, pas parler d'ignorance des gens, mais même le policier là-bas qui savait pas que par exemple, le traitement d'une hydrine pour trouver des empreintes, lui, ça ne disait rien. C'est quand même quelque chose qui est relativement récent aussi comme technique d'enquête. Là. Avant, on peut trouver des empreintes sur du métal, mais sur le papier, ça fait pas longtemps que ça existe, mais ça existe vraiment.
Et côté dessin, vous avez un style qui est quand même assez découpé, assez géométrique. C'est un choix que vous avez fait côté stylistique ou c'est simplement fait une adéquation naturelle entre votre style de dessin et le type d'univers que vous voulez créer?
Ben, c'est pas mal le type de dessin dans le sens... Ben, le type d'univers, oui, mais étant donné que mes influences, quand je parlais avec P. Jacob, avec Blake et Mortimer, c'est certain que j'en suis décroché, mais au début, quand j'avais 10, 12, 15, 16 ans... J'avais une tendance à reproduire un peu ce style de dessin-là. Mais j'ai toujours aimé ça du côté un dessin linéaire, mais j'ai toujours aimé ce style de dessin-là. C'est pas choix, mais c'est mon style en même temps que j'ai développé. Et forcément...
ça reste un peu aussi dans la filiation, comme on disait, avec les éléments de référence et le reste. Donc, ça accentue peut-être un peu la dimension de suite, entre guillemets, ou d'inclusion dans une série d'autres univers qui sont venus influencer, dans le fond, votre univers à vous.
Oui, si on veut, oui, parce que mes influences, c'est certain, quand j'étais tout jeune, Chester Good qui faisait Dick Tracy, j'accrochais à ça. Les séries qui avaient été liées à cette époque-là aussi. Comme je parlais, Herman aussi m'a beaucoup... j'ai beaucoup accroché au dessin d'Herman. J'en suis décroché quand même aussi, mais forcément, mon style, c'est un amalgame de tout ça, là, finalement. J'aimais beaucoup John Prentice qui faisait Rick Kirby dans le temps, quand j'étais jeune, dans le journal, dans le soleil. C'est un dessin vraiment très réaliste. Mais je suis un dessin réaliste, mais à la limite, dans certains cas, des fois, des personnages... Ils ne sont pas caricaturaux, mais à la limite, dans certains cas. Mais c'est ça. Je me suis jamais beaucoup posé la question.
Et enfin, on peut découvrir donc ce que vous avez créé, et c'est cette enquête, ce polar nordique, pourrait-on dire, avec section des homicides, donc tome 1, Fureur meurtrière, c'est au 400 coups. Oui. Thibault, merci beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Et bonne suite de votre côté.
Ben c'est ça, on va peut-être se rencontrer au Salon du Livre de Québec.
Ben qui sait, pour le 25e Festival de la BD.
Ben oui.
Excellent, ben au plaisir.
Ben merci, au revoir.
Alors voilà, donc Luc Thibault, je le rappelle, auteur de la BD, section des homicides. On prend une courte pause, à venir, Julie Doucet.
Les finitions du Conservatoire d'art dramatique de Québec entrent en scène dans Fragments, une création théâtrale collective mise en scène par Marie-Josée Bastien. Ces fragments d'histoire, plus insolites les unes que les autres, sont attachés par une trame qu'on découvre peu à peu avec stupéfaction. Venez voir Fragments, du 26 février au 4 mars, au Théâtre du Conservatoire, 13 rue Saint-Stanislas. Informations et réservations au 418-643-9833. Billets, 10 $ adultes et 5 $ étudiants.
Pour sa prochaine activité, le Ciné-Club Spirafilm vous propose l'émotion sur grand écran. Le 27 février 19h, à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou, voyez Valse avec Bachir, d'Harry Folman, un film d'animation bouleversant présenté à Cannes en 2008. La séance sera précédée du court-métrage Le Dernier au revoir de Nathalie Tanou. Invitée, Karine Boulanger, programmatrice à la Cinémathèque québécoise. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socioculturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, la boîte à pain, le bal du lézard et CKRL.
Folk, soul, groove, afrobeat. Le vendredi 18h30, les rythmes de Jean-Baptiste Duvigneau et Lou Bendy font exploser CKRL. C'est 100% dynamite. Le théâtre et la danse sont à l'honneur au 89.1 avec les Enfants du Paradis en compagnie de Robert Boisvert.
C'est quand il y a le 89.1 à Québec.
Petit égo. Cette soirée est une présentation du bal du lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418 529 3829.
On parlait toujours avec vous, c'est la vie en BD qui se poursuit ici à CKRL jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez avoir un peu plus d'informations autour de l'émission, autour de ce qui se passe en BD à Québec, on essaie de regrouper le plus possible tout ça, soit via le Facebook, soit via le blog de l'émission, et tout ça, vous pouvez le trouver facilement sur lavieenbd.wordpress.com. Et d'ailleurs, si vous allez y faire un tour, vous allez voir une petite présentation d'une activité qui s'en vient lundi prochain, en fait, première d'une série de 4 que j'ai le plaisir d'organiser en compagnie d'Anne-Marie Olivier de chez Philactère, ainsi que de Frédéric Rondeau. Il s'agit des micros ouverts de la BD. Donc, c'est un nouveau rendez-vous qu'on lance aux amateurs de bande dessinée de la capitale. Et donc, je me lance aussi, puisque j'en suis. Alors, il s'agit en fait, l'idée de ces activités-là, de partager, dans le fond, les bonnes idées, lectures, les bons éléments à découvrir dans la BD récente ou BD un peu plus ancienne. Et donc, de s'inspirer des lectures des autres pour inspirer nos lectures à nous. Parce que parfois, en fait, on découvre par nous-mêmes, on creuse avec le web aussi, mais c'est plaisant de pouvoir se rencontrer face à face et d'échanger comme ça des idées de lecture, des auteurs, des volumes, etc., etc. Et pour mener ces rencontres-là, eh bien, à chaque rencontre, à chaque micro ouvert, il y aura un lecteur invité qui va venir démarrer le bal et qui, en une trentaine de minutes à peu près, va présenter ses coups de cœur à lui, ses meilleurs titres, va expliquer pourquoi il a été accroché par tel ou tel BD, peut-être dire s'il est un créateur de BD, s'il travaille dans le milieu culturel, ben quelle influence aussi ces BD-là auraient pu avoir sur son travail à lui. Et donc, l'idée étant de nous inspirer un peu à travers tout ça. Et quand on parle, par exemple, d'auteur BD, eh ben lundi 27, ce sera Philippe Girard qui va faire notamment Rewind, Tuer Velasquez, Les Ravins, etc. Le 26 mars, ce sera JF, qu'on connaît aussi, Crépuscule des Dieux, Saint-Germain, White Crows, Tokyo Ghost. Et donc, si on apprécie le travail de ces BDistes-là, ben nécessairement, on risque d'avoir envie de savoir ce qu'ils lisent, eux, dans leur temps libre. Et si on a envie aussi de voir, si on aime le polar, par exemple, on en parlait tout à l'heure, ben, si on aime le polar, ben Philippe Girard réalise aussi des BD un peu dans cet univers-là. Alors, nécessairement, on peut imaginer qu'il aura des lectures à proposer dans cette sphère-là. Alors, il y a cet élément-là. Dans les autres rencontres, il y a aussi... on va aller faire un tour du côté du fanzine avec Kaylin Johnson qui offre des des volumes un peu sautés, pourrait-on dire. Alors, encore là, ce serait intéressant de voir les univers de lecture qu'elle va nous proposer. Ou encore, on termine le 28 mai avec 1069 de la formation Phylactère Cola, un cinéaste. Alors, on connaît ses réalisations, son travail derrière la caméra. Alors, c'est toujours intéressant aussi de voir, parce qu'on sait qu'il est un amateur de BD, qu'est-ce qu'il lit, pourquoi il le lit. Et encore là, on fait l'adéquation entre son univers et ses lectures. Alors, l'idée est vraiment de faire des rencontres informelles, conviviales. Alors, on vous invite chez Phylactère, c'est à 18h30, c'est les derniers lundis dans le fond de chaque mois. Et vous arrivez donc vers 18h30, il y a du thé sur place qui est offert par la gang de chez Sebs. Et on leur a donné le défi aussi de choisir, parce qu'on a accès un peu d'avance aux livres, aux ouvrages dont les auteurs, dont les lecteurs invités vont parler. Et donc, on les envoie à l'équipe de Sebs en leur disant, ben voilà, ça ressemble un peu à ça. Eux nous choisissent un temps en adéquation avec l'univers et donc par extension la thématique qui va nous être proposée à cette occasion-là. Alors, on a un breuvage inspirant, on a un invité inspirant et on espère que tout ça mène dans la deuxième tranche de ces rencontres-là à des discussions aussi qui sont inspirantes parce que, comme on le dit, c'est pas un conférencier qu'on invite, c'est un lecteur invité. Parce que lui aussi a peut-être envie d'avoir nos retours de son sur des lectures qu'il a faites, d'avoir nos idées à nous aussi en matière de BD, d'avoir nos bonnes adresses. Alors, c'est une occasion aussi d'échanger entre nous et avec ce lecteur invité autour de ce monde merveilleux qu'est la bande dessinée. Alors, c'est un peu ça l'esprit. Donc, c'est, je le rappelle, les micros ouverts de la BD. Donc, première rencontre, c'est le 27 février à 18h30 à la librairie Phylactère au 685 rue Saint-Joseph-Est. Le lecteur invité, Philippe Girard. Je vous invite cordialement à venir nous y joindre. L'information, je le rappelle, elle est sur le blog de l'émission lavieenbd.wordpress.com. Il y a aussi un événement Facebook. Vous pouvez aller chercher de l'information également sur la page Facebook de la librairie Phylactère. Et évidemment, on espère vous y voir en grand nombre. Alors voilà, l'invitation est lancée. On reprend une petite pause musicale avec un extrait de la formation X-Ray Zebras. Et au retour, on jase avec Julie Doucet. Voilà donc un petit extrait de la formation X-Ray Zebras, Sunglasses State, toujours ici à CKRL 89.1. Et prochaine invitée qui est bien connue de la sphère bande dessinée, puisqu'elle a fait plus d'une dizaine d'années extrêmement prolifiques, remarquables même, avec notamment la série Dirty Plot, éditée chez Drawn and Quarterly. Après donc une dizaine d'années de travail en BD, elle s'est réorientée vers l'animation et les arts visuels. Et on peut voir un aperçu justement de ce qu'elle travaille, de ce qu'elle développe, de ce qu'elle explore dans cette sphère. Du côté de l'œil de poisson, avec une série de films sous le thème « On se lundi matin », donc qui est présenté à l'entrée vidéo. On a le plaisir de l'avoir au bout du fil également ce soir. Julie Doucet, bonjour.
Bonjour.
Alors, commençons par les vidéos que vous présentez à l'œil de poisson. Peut-être le contexte d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à cette présentation-là, et à vous associer à l'exposition qui est présentée de Dan Brault et de Dominique Pétrin?
En fait, c'était à cause de Dominique Pétrin, qui était une bonne amie à moi. On a même partagé un atelier de sérigraphie ensemble, c'est qu'elle avait été invitée, puis l'œil de poisson lui avait demandé si elle faisait des films. Non, elle fait pas de films, alors elle a passé à moi.
Et de ça, ça a amené donc à la petite série de films, dans le fond, qu'on y découvre. Est-ce que c'est un peu un bon aperçu du travail de vos explorations du côté de l'animation?
Oui, parce que des films, j'en ai pas fait des tonnes non plus. Et là, il y en a 7. J'ai dû en faire une douzaine peut-être jusqu'à maintenant.
Et on voit vraiment aussi justement le pont entre un film à l'autre. Il y a une bonne cohésion, je trouve, autour de votre univers, l'exploration de la ligne, des mots. Pouvez-vous nous présenter peut-être un peu justement cet univers-là et les cadres, un peu les éléments que vous explorez à travers l'animation, à travers votre travail en art vidéo, pourrait-on dire?
Oui, ben ça rejoint en fait mon travail de bande dessinée dans le sens que c'est beaucoup un travail sur le texte. Moi, j'ai toujours écrit quoi que j'ai fait, que ce soit du collage ou bien de la gravure ou des livres sérigraphiés ou quoi que ce soit. Fait que j'avais envie d'intégrer les mots dans du dessin animé. J'avais envie de voir jusqu'à quel point on peut suivre un texte sur un film, tu sais, de garder l'attention du spectateur sur un texte. Alors, puis j'avais pas tellement envie de faire des petits bonhommes pour soutenir tout ça. Alors, c'est quand même assez abstrait en général.
Oui, parce que les phrases aussi elles-mêmes, en fait, il y a des phrases, il y a des sections où ça fait sens, il y en a d'autres où on a l'impression que c'est des mots et on essaie de faire sens aussi de ces mots-là.
Est-ce que ça marche?
Oui, en fait, dans certains cas, oui, en fait, je réfère peut-être plus à 11 lundi matin où parfois, en fait, les termes sont lancés et en fait, il y a une suite, mais faut construire cette narration-là, je veux dire, on peut pas le regarder passivement, ce que vous nous proposez, là.
Non, mais moi, j'aime bien faire travailler les gens, puis j'aime bien quand j'aborde une œuvre quelconque, j'aime bien quand même avoir à travailler un peu, puis pas avoir tout cul dans le bec tout le temps, puis qu'il y a de l'espace un peu pour l'interprétation. Ben là, c'est sûr que c'est un texte, fait qu'il n'y a pas des tonnes de place pour l'interprétation, parce que c'est vraiment tel quel, là, mais c'est ça.
Et qu'est-ce qui vous inspire? Je me rappelle, en fait, votre travail BD était aussi extrêmement autobiographique. Est-ce que ça se transpose aussi à l'intérieur de la sphère animation?
Non, pas du tout. Non. C'est basé sur des courts textes que j'ai écrits. C'est presque de l'improvisation. J'ai fait ça. Les textes originaux, c'est des espèces de poèmes écrits avec des mots découpés dans des journaux ou des vieux magazines. Alors, c'est assez.
C'est presque
assez improvisé dans un sens. Ouais.
Un collage instinctif, on pourrait dire.
Oui.
Et d'ailleurs, en fait, on peut mentionner, en fait, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, un parcours en BD dans lequel vous êtes très illustré, donc, éventuellement, vous avez dit, bien, OK, on met de côté le médium, on passe à autre chose. Reste que, évidemment, réédition oblige aussi, entre autres, mais on vous perçoit aussi toujours comme une BDiste et une artiste, donc l'étiquette BDiste qui demeure, même si vous avez mis de côté un peu le médium, comment on travaille un peu avec ça? Est-ce que c'est une frustration de se faire dire, bien, vous êtes BDiste et artiste, ou on vit bien avec ça, même si on a décidé de mettre de côté justement la BD?
Alors, ben, maintenant, je vis bien avec ça, mais tu sais, ça m'a tellement poursuivi. Je savais que ça serait difficile de prouver ou de montrer au monde que je fais autre chose, je peux faire autre chose, tout ça, mais ça a vraiment, vraiment, vraiment été beaucoup plus long que j'aurais cru. Alors, évidemment, à force, bon, ben, c'est correct, ça me dérange plus vraiment, mais c'est vraiment dur de forcer les gens à regarder autre chose.
Et dans ce cas-ci, de ce que je me souviens avoir lu en entrevue, c'était un peu une fatigue par rapport au cadre, peut-être un peu plus formel, la bande dessinée, un désir d'expérimenter, d'explorer de manière un peu plus libre, peut-être?
Oui. Ben, j'ai arrêté la bande dessinée en 99, puis à ce moment-là, les éditeurs, ou en général, n'aimaient pas trop, il n'y avait pas de place pour l'expérimentation, mais depuis, ça a beaucoup, beaucoup changé, mais moi, j'ai tout fait, en tout cas, là-dedans, j'avais envie d'essayer d'autres choses, mais c'est ça, dans le cadre bande dessinée, il n'y avait juste pas de place pour ça du tout à ce moment-là.
Et est-ce que vous êtes trouvé rapidement à travers l'animation, l'art vidéo? Est-ce que où il a fallu aller chercher justement du tâtonnement pour trouver un peu votre ligne directrice, justement, votre approche dans ce médium-là que vous travaillez depuis quand même, là, on parle au-dessus d'une décennie?
Ah oh, non, ça, là, le dessin animé, ça fait peut-être 2 ans et demi.
OK, c'est quand même assez récent, cette pratique-là, précisément. Là.
Oui. Ben, en fait, j'ai cru que ce serait facile pour moi de travailler avec du dessin animé, vu que je viens de la bande dessinée, puis faisant de la bande dessinée, t'as quand même un certain sens du rythme, de la narration, tout ça, mais c'est complètement différent. J'étais complètement perdue. Ça a été difficile de m'adapter à ça, vraiment, là, ouais.
Mais l'adaptation se fait, c'est faite.
Oui, à peu près, ben oui et non, dans le sens que je sens que j'ai encore énormément de choses à apprendre.
Mais c'est toujours positif d'avoir conscience du chemin qui nous reste à faire. Il me semble que c'est que, comme dit Platon, en fait, c'est le savoir, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas.
Oh oui, non, c'est sûr que c'est positif, mais c'est, j'avoue, j'ai trouvé ça vraiment décourageant par bout.
Et on a parlé un peu de ce qui anime justement dans la création juste de ces films-là. Vous avez aussi fait des livres de poésie, si je me trompe pas. Donc j'ai l'impression que toujours le mot, le côté langue qui reste présent dans un peu tous les éléments que vous avez touchés jusqu'à présent là.
Oui, donc définitivement. Puis plus ça va, plus j'ai tendance à aller vers l'écriture, plus d'écriture, puis moins de visuel, mais ça va toujours rester un mélange des deux, définitivement. Je pourrais pas juste écrire straight comme ça, ça m'intéresserait pas tant que ça, non.
Et parallèlement, vous êtes passé aussi, je pense que la BD était en anglais et en français, aujourd'hui c'est beaucoup plus du français aussi, et qu'est-ce que fait cette évolution-là dans la langue, dans votre langue de prédilection, dans le fond?
Ouais, ben c'était un peu par la force des choses que j'ai commencé à écrire en anglais. C'est vraiment parce que j'ai eu l'occasion d'être publiée en anglais d'abord et avant tout. Même quand je faisais mon fanzine Dirty Plot, un petit fanzine photocopié de rien, là, j'avais plus de contacts aux États-Unis. Puis dans le monde anglophone, ça bougeait beaucoup plus à cette époque-là, dans ce monde-là. Ce qui fait que, nécessairement, j'ai commencé à écrire un peu en anglais, puis éventuellement, j'ai été publié chez John and Quarterly bien avant d'être publié en français. C'est vraiment pour ça. Puis éventuellement, quand j'ai arrêté la bande dessinée, mais ça faisait vraiment plus aucun sens d'écrire en anglais.
Et les gens peuvent découvrir ce que vous faites, ce que vous réalisez, comme je le disais, à l'œil de poisson, en fait. Donc, les films sont là jusqu'au 18 mars dans le cadre de l'exposition. Il y a aussi, via votre site web, gildoucet.net, il y a un accès à votre Tumblr où on peut voir justement aussi des petits exercices d'animation, des petits travaux d'animation que vous avez réalisés, voir un peu aussi vos réalisations récentes.
Oui, tout à fait.
Et en terminant, ta petite mention aussi, les mots, les éléments qui sont présentés dans les 7 films qu'on découvre à l'œil de poisson sont aussi appuyés par le travail d'art audio de Madame Jacques. Donc, j'ai perdu le prénom.
C'est Anne-Françoise Jacques.
Oui, voilà, et qui vient justement aussi battre la cadence un peu à travers ces mots-là.
Ah oui, c'est vraiment extrêmement important. Ce que je voulais en collaborant avec elle, c'est que la musique, la trame sonore soit au moins aussi importante que le visuel. Je pense que de ce point de vue-là, on a quand même assez bien réussi parce que, en tout cas, il y a des films carrément que j'aurais pas présentés. Elle a travaillé dessus avec la trame sonore, ça les révélait complètement. Puis aussi au vernissage à l'œil de poisson, vraiment, j'ai eu énormément de bons compliments sur les trames sonores. Alors, c'est ça, je me suis dit que bon, c'est mission accomplie. C'est pour ça que je suis vraiment super contente.
Ah ben voilà, on invite les gens à aller faire un tour, à aller découvrir tout ça. Julie Doucet, merci beaucoup.
Ah ben merci à vous.
Et bonne fin de journée.
Merci.
Voilà Julie Doucet, donc, qui a réalisé quelques films d'animation qu'on peut voir donc à l'œil de poisson, je le rappelle, jusqu'au 18 mars. Ça s'appelle « On se lundi matin ». voilà, dernier petit extrait très court. Goldfish, X-Ray Zebras, formation de Québec. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur eux, on mettra donc de l'information sur le blog de La Vie en BD en cours de fin de semaine. Peut-être avant de se laisser, petite mention au passage, en fait, deux albums. Si vous avez des jeunes garçons, si vous êtes un jeune garçon, ou si vous êtes un jeune garçon dans l'âme, deux sorties récentes qui risquent de bien vous satisfaire, notamment le tome 5 de la série Gobelins. Une série de Tristan Rouleau et Corentin Martinage qui s'appelle La fleur au canon. Et dans le fond, c'est des histoires de gobelins, donc ces créatures complètement idiotes qui essentiellement réussissent à chaque planche, à chaque gag, à s'auto-détruire, se faire détruire, se faire battre, et cela toujours en souhaitant faire le mal. Alors, c'est rigolo, c'est sympathique de manière générale, là, les historiettes assez rigolotes qui constituent l'album, une succession de gags, une ou plusieurs planches, assez créatives aussi, dans la mesure où c'est le genre d'album qui pourrait facilement devenir redondant. Je connaissais pas la série, moi, avant ce cinquième tome-là, donc je la découvre. Peut-être qu'il y a redondance à travers les tomes, mais si vous la connaissez pas, c'est sympathique, c'est comique, en fait. Ça fait sourire. Alors, un cinquième opus, donc qui est un peu dans la lignée aussi d'une autre sortie qui s'appelle Game Over, en fin de série, que vous connaissez sûrement. C'est le spin-off de Kid Paddle, réalisé par Midam, par Adam, et aussi par Titome, qui avait été déniché par les processus de crowdsourcing, en fait, pour les derniers albums de Kid Paddle. On sollicitait les lecteurs, on leur demandait de fournir des gags, des idées de gags, et de ces gens, ils ont été chercher justement un scénariste qui en fournissait particulièrement et qui lui a travaillé à la réalisation de cet album-là. Et un peu à l'image de Gobelin. Donc l'idée, c'est vraiment de tuer les personnages au terme de chaque planche et de le faire de manière la plus imaginative possible. Et Game Over qui fonctionne très bien dans ce sens-là aussi, même après cette tome. Alors, si vous aimez, pour les plus vieux, Itchy and Scratchy ou des choses comme ça, probablement que vous allez apprécier ce type de bande dessinée-là. Voilà, petite mention au passage. On va se laisser là-dessus. La semaine prochaine, ce sera un spécial bord d'image. Alors, en studio, on aura JF, Philippe Girard, Francis Desharnais, Pierre Bouchard. L'émission sera co-animée par Michel Giguère. C'est cinq personnes qui reviennent de Bordeaux. Alors, on va parler des liens Bordeaux-Québec, notamment en bande dessinée. Alors, c'est un rendez-vous. Vous soyez là. C'était Raymond Poirier qui était au micro avec vous. Ça a été un plaisir de passer une heure ensemble. Je l'espère, du moins, ce l'était pour moi. Et dans quelques instants, ce sera la gang de 100% Dynamite qui prennent l'antenne.